BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Affaire suivante, numéro 241. Soyez les bienvenus. Émission spéciale consacrée à la mort du petit Émile. Cela fait 8 jours, très exactement, que le crâne du petit garçon a été retrouvé. Depuis, les gendarmes fouillent, ils sont mobilisés. Ils fouillent chaque centimètre carré de la zone pour trouver des indices, un recueil d'informations absolument essentielles pour une enquête qui redémarre.
Oui, toutes les pistes restent ouvertes dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Accident, crime, homicide involontaire, ce sont les mots du procureur de la République qui appellent à la prudence et qui appellent aussi à ne négliger aucune piste. Alors, la science permettra-t-elle de connaître réellement la vérité ? On y revient dans un instant avec nos invités.
Et puis dans l'affaire suivante, un long format exceptionnel pour remettre en perspective l'enquête sur la mort du petit Émile. Rebondissements, questions non résolues, témoignages troublants. Le film de l'enquête, c'est dans un instant.
Allez, affaire suivante, c'est tout de suite.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, affaire suivante consacrée à la mort du petit Émile. Pendant 2 heures, on va essayer de reprendre l'enquête, de comprendre toutes ces questions, ces coïncidences, ces incohérences qui se posent dans ce dossier où il y a beaucoup plus d'incertitudes que de réponses à ce stade. Bonjour Dominique.
Bonjour Philippe.
On est donc ensemble pour 2 heures. Et ça fait en effet 8 jours que le crâne du petit Émile a été retrouvé par une randonneuse, vous le savez, sur un sentier à 1,5 km du village du Haut-Vernay. Une distance qui interroge à la fois assez longue pour se demander si Émile a pu marcher seul si loin et en même temps tellement proche du Haut-Vernay pour ne pas se demander comment ce corps aurait pu ne pas être retrouvé plus tôt. La découverte du crâne d'Émile et de quelques-uns de ses vêtements suscite de très nombreuses interrogations, d'où ce travail minutieux engagé depuis 8 jours par une centaine de gendarmes. Elisa Tran.
Depuis la découverte du crâne d'Émile par une randonneuse il y a 8 jours, le périmètre, situé à environ 1 km à vol d'oiseau du Haut-Vernay, a été bouclé et longuement filmé par un drone.
L'objectif, c'est de créer un double 3D numérique de la scène pour pouvoir la préserver et repositionner très précisément, donc de l'ordre du centimètre, tous les indices qui ont été prélevés.
Parmi ces indices, des vêtements du petit garçon ont été retrouvés près d'un ruisseau, à environ 150 mètres en contrebas du sentier où a été découvert le crâne.
Un t-shirt, ses chaussures et une culotte, qui n'étaient pas rassemblées au même endroit, mais qui étaient éparpillées sur quelques dizaines de mètres.
Dans l'objectif de retrouver d'autres ossements de l'enfant, des équipes cynophiles spécialisées dans la recherche de cadavres ont été déployées cette semaine aux côtés d'une centaine de gendarmes. Sur place également, des anthropologues capables d'analyser les ossements.
L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries.
Le crâne présente des traces de fissures et de morsures post-mortem. Mais selon les premières analyses, Émile n'aurait subi aucun traumatisme crânien avant sa mort. Rien ne permet pour l'instant d'en déterminer la cause. Chute, homicide involontaire ou meurtre, toutes les hypothèses restent ouvertes.
Alors dans cette émission spéciale, on va évidemment revenir sur les différents scénarios possibles, sur toutes les questions qui se posent. Mais d'abord, l'enquête, comment s'est-elle déroulée depuis 8 jours? Que font ces gendarmes mobilisés sur le terrain et qui vont continuer leur travail encore la semaine prochaine? On va reprendre tout ça avec nos invités. Le général François Daoust, bonjour, merci beaucoup bonjour. D'être avec nous. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, qui est au cœur de cette affaire. Vous êtes aujourd'hui professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Randall Scherdorfer, bonjour, merci monsieur beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste, on vous connaît bien, auteur notamment du livre Itinéraire d'un avocat hors normes, 10 affaires criminelles incroyables, c'est chez Hugo Doc. Et puis Laurent Blanchard, bonjour, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes journaliste au service reportage du journal La Provence. Vous connaissez bien le terrain, vous suivez cette affaire depuis le début. Ce sera passionnant de vous entendre. Boris Karlamov est aussi avec nous. Bonjour, grand reporter BFM TV. Vous suivez cette affaire depuis le début. Vous étiez au Haut-Vernay toute cette semaine. Là encore, votre regard et vos informations seront précieuses. D'abord, commençons peut-être par vous, parce que la dernière information qu'il faut donner sur cette enquête qui reprend, c'est que les fouilles des gendarmes elles vont se poursuivre la semaine prochaine.
Oui, c'est une information BFM TV. Les recherches vont continuer tout au long de la semaine prochaine. Pour cette raison-là, eh bien, le maire du Vernet a prolongé l'arrêté municipal qui interdit l'accès au hameau jusqu'à lundi prochain. On ne sait pas encore si il y aura toujours cette centaine de gendarmes au quotidien sur la zone, si on va augmenter cette mobilisation ou si on va la baisser. L'objectif, eh bien, c'est de continuer les recherches à trouver les autres ossements du petit Émile. On le rappelle, pour l'instant, nous avons un crâne, nous avons quelques ossements, nous avons récupéré, enfin les enquêteurs ont récupéré un t-shirt, une culotte et des chaussures, mais il manque encore beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices pour espérer pouvoir éclaircir ce mystère, puisqu'on le rappelle, le procureur de la République d'Aix-en-Provence ne privilégie aucune piste, le meurtre, l'homicide involontaire ou encore la chute du petit garçon.
D'où la nécessité, l'importance de l'enquête qui est en cours. Cette zone, Laurent Blanchard, qu'on est en train de fouiller méticuleusement, elle fait combien de mètres carrés? Elle est grande comment?
Alors, pour l'avoir emprunté à plusieurs reprises, ce sentier donc est long de 2,5 km à peu près. La zone où on a retrouvé le haut du crâne est distante de 1,5 km du hameau du Haut-Vernet. Ensuite, une zone qui est, en première partie, qui est assez accessible pour tout randonneur, plus ou moins confirmé ou pas. Au milieu du sentier, il y a une partie accidentée donc, où on pourrait donc expliquer une chute accidentelle du petit Émile. Voilà, c'est une zone qui est à la fois accessible et par endroits qui nécessite effectivement des recherches particulières.
Quand on recoupe, Dominique, on se dit que c'est quoi, 2 km carrés à peu près ?
Le procureur parlait de 2 km carrés. Il disait que le lendemain de la disparition, une mobilisation massive avait permis d'arpenter 2 km² dans lesquels se trouve la zone où a été découvert le haut du crâne d'Émile.
Général, 2 km², ça fait 8 jours que 100 gendarmes y sont. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ça dure aussi longtemps et pourquoi ils vont donc continuer la semaine prochaine.
Une zone de 2 km², c'est une zone très importante. Là, on a l'impression, on a le chiffre 2 qui minimise.
Oui, mais on a le sentiment que c'est pas une zone immense, 2 km².
Et c'est une zone très importante. Et en plus, on recherche des ossements qui sont de petits ossements, qui ne se distinguent pas dans la nature d'un petit morceau de brindille ou voire un petit caillou. Donc, besoin d'anthropologues qui, en permanence, regardent et voire même parfois dans les limons, puisqu'il y a eu des ravinements passés au tamis, c'est ce qu'on avait fait pour l'affaire Flactif, par exemple, pour retrouver des ossements, pour justement essayer de les retrouver. Donc ça, c'est très long. Et en plus, il faut les distinguer d'ossements d'animaux, de petits animaux. On voit que derrière, c'est un travail de fourmi qui nécessite une reprise du terrain en permanence. Et c'est doublé aussi avec ce qu'on appelle la modélisation 3D. C'est un laser qui est déplacé au fur et à mesure. Il n'y a pas que l'image des drones par-dessus. C'est sur place pour revoir ce relief et essayer de voir depuis la prairie au-dessus, depuis le Haut-Vernet jusqu'au crâne, quels sont les cheminements qu'un enfant de 2 ans aurait été capable de suivre tout seul, sans forcément l'aide d'un adulte ou le fait qu'un adulte dépose le corps, si tant est que cette hypothèse puisse être là.
En général, avec les conditions météo assez défavorables, il a beaucoup plu. Est-ce que quand on repère une zone, on la protège, comme quand on fait des recherches, pour y revenir, parce qu'avec la pluie, c'est pas possible de travailler?
Là, c'est une course contre le temps. On voit bien qu'on va pas pouvoir mettre des bâches sur 2 km².
Non, je veux dire zone par zone.
Non. Là, on avance au fur et à mesure. Il y a une équipe qui privilégie quels sont les axes principaux des ravinements. Donc là-dessus, ça donne une cohérence par rapport à la position du crâne et des habits, et qui suit ce cheminement-là du ravinement. Ouais. Et il y a les autres équipes qui sont beaucoup plus larges et qui vont passer en se disant, de toute façon, s'il y a eu un ravinement, s'il y a eu plusieurs épisodes méditerranéens, donc ça a pu être beaucoup plus large, ce qui fait que les dépôts peuvent sortir. Et au contraire, il y a des dépôts qui peuvent partir très loin, jusque dans la Durance. Et là, ça va être très compliqué. Il y a aussi ce que l'on appelle la prédation, on en reparlera certainement, où on pourra avoir des ossements qui sont même au-dessus de l'endroit où pouvait être le corps de l'enfant.
Parce que transporté par des animaux sauvages, puisqu'on a des traces de morsures sur le crâne.
Qui sont les gendarmes, précisément, qui sont engagés? Parce que vous disiez, il y a des anthropologues, il y a... Quels sont les types de gendarmes qui sont engagés?
Alors, il y a les gendarmes de l'IRCGN, c'est les spécialistes de la modélisation, donc ils vont travailler avec, je vous l'ai dit, un laser, avec des drones pour avoir la troisième dimension qui permet une vision aussi au-dessus de la zone. Il y a anthropologues, il y a entomologistes, parce que derrière, si on arrive à retrouver l'endroit où était le corps, ce qui va être très intéressant, c'est de rechercher tout le passage des insectes nécrophages depuis la première escouade jusqu'à la dernière, en tout cas ce qui va être décisif si on retrouve cet endroit. Est-ce qu'on retrouve des pupes ou des restes de la première escouade? C'est-à-dire que le corps, l'enfant est peut-être mort sur place ou a été déposé tout de suite. Si on ne retrouve que la troisième ou la quatrième escouade sans les autres, eh bien ça veut dire que le corps a été déposé bien après. Donc l'importance, elle est là. C'est retrouver le point d'origine, et derrière, sur les ossements, pourquoi? Parce que si on trouve des traces, c'est pouvoir reconstituer quelque chose.
Point d'origine que vous appelez le fameux point zéro, vous l'avez dit une fois,
oui.
Tout le monde l'a dit.
Tout le monde l'a repris.
L'expression est restée, ce sera la vôtre, le point zéro. Randall Scherdorfer, alors pour l'instant, on va pas qualifier de crime, on va qualifier de mort d'Émile. Trouver le fameux point zéro, trouver là où tout a commencé, quand on reprend des affaires criminelles et dans toutes celles que vous avez pu défendre et sur lesquelles vous avez travaillé, c'est essentiel. Généralement, tout se joue là.
Je partage effectivement l'analyse du général Daoust, c'est-à-dire que ce point zéro, il est fondamental parce que aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est de savoir dans quelles conditions est mort Émile. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce qu'il est mort noyé? Est-ce qu'on l'a noyé? Est-ce qu'on l'a étranglé? On n'a pas l'osioïde, par exemple.
C'est ce petit os de la gorge avec lequel on peut étrangler.
Étranglement, exactement, qu'on va immédiatement cibler et analyser. Donc, en l'état, toute cette énergie qui est dépensée pour déterminer dans quelles conditions est mort Émile. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est criminel? Donc, c'est un travail titanesque. Et effectivement, n'importe quel professionnel va rechercher le point zéro, c'est-à-dire dans quelles conditions, à quel moment, dans quel endroit la mort a-t-elle été soit occasionnée, soit la mort est intervenue de façon naturelle. Donc sans ce point zéro, il y a une multitude de réponses qui restent, de questions qui restent sans réponse. Donc il est fondamental de le déterminer dans les conditions technique, scientifique, a rappelé le général Daoust.
Général, comme il y a plusieurs hypothèses, est-ce qu'on recherche aussi des éléments type traces de pas? Alors vous allez me dire, elles peuvent avoir été évidemment abîmées par le temps, mais si le corps avait été déposé il n'y a pas si longtemps, chercher, ce matin Dominique disait un crayon, chercher tout élément qui pourrait concourir à remonter à quelqu'un.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'en plus des spécialistes dans leur domaine, entomologistes, anthropologues, il y a aussi les techniciens d'identification criminelle et les spécialistes de la scène de crime grand format, parce que ce grand format, c'est ce que l'on retrouve par exemple sur les crashs d'avion. Il faut le reconstituer sur parfois plusieurs kilomètres. Donc là-dessus, ils sont tous à pied d'œuvre. Et le moindre élément va être pris, étudié, analysé et interprété. Est-ce que ce petit élément, c'est un promeneur qui a l'habitude de passer et qui a jeté son papier de bonbon ou autre chose?
Il y en a eu plein, des affaires comme ça, le mégot de cigarette, le papier de bonbon.
Exactement. Est-ce que ça en fait partie? Là-dessus, l'interprétation va être très complexe et longue.
Je pense, Philippe, à propos de ce que vous venez de dire, l'affaire des disparus de Perpignan, il y a une fille qui s'appelle Mokhtaria Shaib, donc qui va être assassiné, et on retrouve, c'est un voisin en fait qui retrouve sa chaussure, l'assassin a acheté la chaussure dans une haie, et la personne en taillant sa haie trouve cette chaussure. Imaginez qu'il la prenne, qu'il la jette dans une poubelle, il n'y a plus d'histoire. En fait, il va la remettre aux enquêteurs. Pourquoi ? Donne cette chaussure aux enquêteurs. Sur cette chaussure, il y a un ADN, et c'est l'ADN de Pascal Jardin, je crois que c'est ça. L'un des responsables des meurtres de Perpignan, il y en a plusieurs, mais sans la vigilance de cette personne, on n'aurait jamais rien su. Donc c'est vrai.
Il y a toujours un facteur chance dans une affaire criminelle, tout court.
Laurent Blanchard, on a retrouvé les ossements, on a retrouvé quelques vêtements. Il y a, je parle sous votre contrôle et celui de Boris, 150 mètres, c'est ça?
Tout à fait.
Ça veut dire que là aussi, on a une distance intéressante qu'il faut fouiller.
Il ne faut pas non plus oublier le facteur du déplacement du corps. On a retrouvé donc le haut du crâne et ses vêtements donc dans une partie précise. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser que ces ossements et ces vêtements aient pu être déplacés soit par les conditions climatiques, soit par des animaux.
Est-ce que vous savez, Laurent ou Boris, comment ça se passe? Parce qu'on en parlait en préparant l'émission, puis on en parle. Est-ce que... Pardon pour ceux qui nous écoutent, mais est-ce que le crâne est en dessous, au-dessus, les vêtements, est-ce qu'on sait ça?
Pas vraiment, on peut supposer que c'était peut-être, le haut du crâne était peut-être en dessous, mais c'est vraiment des suppositions. total.
Vous restez avec nous, on va continuer à prolonger, à faire le point sur cette enquête qui est en cours, sur ces différentes hypothèses. Évidemment, on va reprendre tous les détails dans un instant. Et puis, vous allez découvrir aussi notre long format exceptionnel. Les équipes de Lumière Rouge ont repris l'enquête. Émile, crime ou accident? C'est dans un instant, à tout de suite. La suite d'affaires suivantes consacrée à la mort du petit Émile. Il y a un instant, on a repris cette zone de recherche que les gendarmes sont en train de fouiller centimètre par centimètre. Ça va encore se poursuivre la semaine prochaine. Il y a évidemment au cœur de ces recherches ce fameux chemin. Laurent Blanchard, je voudrais qu'on y revienne. Mmh. Ce chemin d'un kilomètre cinq. Mmh. Expliquez-nous.
Deux kilomètres cinq, exactement.
Deux kilomètres cinq, exactement.
À partir du hameau du Haut-Vernet jusqu'au col du Labouré. Deux kilomètres cinq. Première partie assez plane, assez descendante même. Très accessible pour tout randonneur.
Là, un enfant peut y aller.
Logiquement, un enfant de 2 ans et demi peut emprunter ce chemin, jusqu'à donc une zone un peu plus pentue, un peu plus ardue. Et c'est là que ça se complique un peu plus, mais c'est pas non plus.
Ardue comment, ce que j'allais vous dire?
C'est raviné, c'est de la marne noire, c'est de la roche sédimentaire, en fait, qui est friable. Et on peut imaginer que le garçon ait pu chuter dans cette zone-là, mais c'est une supposition.
Mais s'il chute, il tombe où?
Il y a un ruisseau qui traverse cette zone. Et Maurice, tu confirmes. Donc c'est un sentier qui est traversé par plusieurs ruisseaux de manière régulière. Et le gamin aurait pu glisser dans cette zone-là et chuter. Est-ce qu'il s'est blessé? Est-ce qu'il est mort sous le coup ou pas? Ça, c'est l'hypothèse d'un départ de l'enfant et il se perdrait donc dans le.
Pardon,
dans
la zone. Dominique, je t'apparais un instant. Oui. Et on était donc le 8 juillet, en plein été, oui. Il faisait 30 degrés, il y avait de l'eau, parce qu'il y a plein d'endroits qui étaient asséchés.
C'est une question que je me suis posée justement, vu le contexte météorologique de l'époque, et puis il se peut que ce ruisseau ait été moins dense qu'aujourd'hui. J'ai repassé il y a une semaine.
Vous avez refait le chemin pour la Provence.
Je suis repassé dimanche dernier, jour pour jour, donc en marge des recherches. Les ruisseaux en question étaient beaucoup plus denses, mais je suppose qu'en plein été, donc cette zone était un peu plus asséchée, quoi, effectivement.
C'était ma question, monsieur le président.
Oui. Oh là là, cette communion d'esprit, Dominique. Cette zone, elle est évidemment au cœur de l'enquête. Comment on fait sur un chemin? Il y a toute la zone de fouille où le petit Émile a été retrouvé, et puis il y a cette route. Comment on enquête sur cette route?
Alors, tous les cheminements vont être pris. Comme j'ai dit, ceux qui sont évidents, le chemin, les abords des chemins, ou du chemin, les ruisseaux qui vont vers ce chemin et celui qui le longe également, donc va être reconstitué complètement les possibilités de déplacement. Et bien sûr, tout ce qui est hors chemin, parce que c'est là aussi où il faut vraiment travailler, d'autant plus que s'il est tombé dans une zone, il faut savoir qu'un enfant de cet âge, comme on était l'autre jour avec un médecin légiste qui disait mais la chaleur, etc., moins de 24 heures, il est inconscient, et puis même s'il n'est pas blessé, il n'arrivera pas à survivre.
Et comment on vérifie ce qui est invérifiable? Savoir si un enfant de 2 ans et demi... Mmh. peut faire combien, Laurent? 1,5 km?
1,6 km, ouais. 1,6 km, exactement.
Alors, comment est-ce qu'on vérifie ça?
Alors ça, le fait qu'un enfant de 2 ans marche longtemps ou autre, on a suffisamment, et les médecins légistes ou les médecins vous le diront, de recul pour savoir qu'un enfant peut marcher très longtemps. Il peut marcher 3, 4 km avec un but ou pas de but. Mais au fur et à mesure que la fatigue arrive, il y a encore moins de discernement. Il n'a pas une pleine conscience, c'est un enfant de 2 ans. Mais plus il est fatigué, plus c'est un petit peu comme les personnes Alzheimer qui, tout d'un coup, partent sans but. Et on a l'impression qu'elles ne vont pas aller loin parce qu'elles sont âgées. Et on les retrouve parfois très loin. Donc là-dessus, la distance n'est pas incommensurable. Elle est à moitié. Ça peut exister.
Boris, une des inconnues de la semaine, avant qu'on reprenne les différents scénarios, c'est quand même la manière dont on a retrouvé ce crâne. Il faut en dire un mot de cette randonneuse. Racontez-nous peut-être comment ça s'est passé. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de cette randonneuse.
Alors pour commencer, on n'a aucun élément sur le profil de cette promeneuse. On ne sait pas si c'est une randonneuse ou une promeneuse, puisqu'on est dans une zone où il y a de nombreux champignons, surtout en cette saison-là. Ce qui est intéressant, et on l'a appris par la voix du procureur, c'est que cette dame est passée un mois avant dans la même zone. Elle n'avait rien trouvé. Il y a eu des coupes de bois au moment de l'automne. Là encore, eh bien, les personnes qui travaillaient pour couper le bois n'ont absolument rien trouvé. Et puis surtout, et on va l'entendre dans le ligne rouge de tout à l'heure, il y a un droniste qui avait parcouru cette zone, qui avait fait voler son drone à moins d'un mètre au-dessus du sol. Là encore, il n'avait absolument rien trouvé. Donc, ça renforce peut-être l'hypothèse du déplacement de corps, même si on n'a aucune certitude. Mais c'est vrai que c'est des éléments assez troublants et qui entretiennent le mystère aujourd'hui. On est sur un chemin forestier. On sait que le crâne, il a été posé par terre, ou du moins, on l'a retrouvé au sol et non pas enterré. Il a été altéré par les nombreuses intempéries des dernières semaines.
Et cette femme, elle ramasse le crâne. Ça a été un point d'interrogation quand même.
Elle ramasse le crâne, elle prend toutes les précautions, c'est ce que nous a dit le procureur. Elle le place dans un sac, elle rentre chez elle et c'est à ce moment-là bien qu'elle prévient la gendarmerie. On imagine forcément que les gendarmes, eh bien, ils sont revenus sur les lieux de la découverte avec cette témoin capitale aujourd'hui. Mais il n'y a pas plus d'éléments sur le programme de la journée de cette dame-là samedi dernier. Entre midi et 14h, elle retrouve ce crâne. Est-ce qu'elle avait l'habitude de prendre ce chemin? On sait qu'elle a fait une fois ce chemin un mois auparavant. On ne sait pas si c'est une personne qui habite dans la région, même si on a quand même quelques éléments qui nous font penser que oui, puisque le procureur a dit qu'elle était rentrée chez elle, donc on imagine qu'elle n'a pas fait 6 heures de route entre la découverte et l'appel à la gendarmerie. Donc il y a beaucoup de choses troublantes aujourd'hui et très peu d'éléments forcément, puisqu'elle fait plein de...
Laurent Blanchard.
Le plus étonnant, c'est que cette zone est fréquentée, c'est un chemin de randonnée accessible, et donc il a fallu qu'une dame se déporte du sentier pour tomber sous le haut du crâne de manière hasardeuse. Et on se demande encore aujourd'hui pourquoi cette zone, donc, qui est très fréquentée, n'a pas permis donc de révéler ces ossements.
Avec vos réseaux journalistes locaux, vous fouillez, vous retrouvez cette femme. Vous arrivez à obtenir des infos ou il y a un mystère total sur cette personne?
Pour l'instant, il y a un mystère total.
Mais les gendarmes ont dû lui demander de se taire.
Oui,
les gendarmes ont dû lui dire vous vous baisez, vous ne parlez pas aux journalistes, vous faites, nous, on ne donnera pas vos coordonnées.
En tout cas, ça interroge.
Oui, il y a beaucoup de mystères. En tout cas, le mystère est bien tenu.
Elle a évoqué le fait que le téléphone ne passait pas, qu'il y avait des problèmes de connexion téléphonique.
Général,
je ne suis pas très certain de cet argument. Là, mais bon,
alors, on n'accable pas cette femme. Elle a fait ce qu'elle pensait devoir faire. Elle a pris le crâne, elle l'a mis dans un sac, elle a prévenu les gendarmes. Est-ce que si elle l'avait laissé, on aurait pu découvrir des choses qu'on ne découvrira pas parce que le crâne a été déplacé?
Objectivement, je ne pense pas. On est plusieurs mois après, c'est un crâne qui est nu, qui n'a plus de peau, qui n'a plus de cheveux, qui a subi les intempéries. Le fait qu'on ait retrouvé...
Qui n'a pas été enterré. Qui a été exposé longtemps à la météo, dit le procureur.
Voilà. Donc, on est, et les habits qui sont à 150 mètres de là, éparpillés, ils n'y sont pas tous. Ce qui semble corroborer l'hypothèse d'un déplacement, mais d'un déplacement dû à des intempéries. Et ce qui est parfaitement cohérent avec le fait qu'elle passe dans la zone... Un mois avant, il n'y a rien. Entre le mois où elle passe et le moment où elle trouve, souvenez-vous, rien que sur BFM, il y avait des alertes météo dans la région sur ces rentrées méditerranéennes qui allaient faire des pluies importantes. Et on est là vers le déplacement du corps, mais qui est beaucoup plus compatible avec un déplacement par ravinement que par un dépôt.
Les gendarmes vont y retourner, vont refaire toute la météo de 8 juillet pour savoir à quel moment il a plu beaucoup, à quel moment ça a coulé, à quel moment ils vont refaire ça.
Ah mais ça c'est évident. C'est à partir de quand, quelles ont été les pluies et est-ce qu'il y a eu des pluies importantes susceptibles de raviner et si oui, de déplacer un corps. Dans un premier temps, le corps de l'enfant est constitué, donc quinzaine, vingtaine de kilos maximum. Il bouge pas de là où il est, où il est posé ou tombé. Et au fur et à mesure que la nature reprend ses droits, toutes les parties molles sont prises par les prédateurs ou par la décomposition naturelle, et ce ne sont plus que des petits os qui sont très légers et très sensibles à la moindre incident climatique qui va emporter le tout.
Et si l'on retrouve les os, parce que je crois savoir que les sangliers, par exemple, donc dévorent donc à la fois la chair et les os. Oui. Donc, il y a cette hypothèse-là qui n'est pas non plus à écarter.
Est-ce que, et on va rentrer encore une fois dans un instant dans les différents scénarios, mais est-ce qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que le corps a été déplacé, naturellement ou pas naturellement?
Ah oui, là-dessus, on n'est pas à l'endroit où l'enfant est mort ou a été déposé.
Alors moi, j'ai une question, mais je vous la pose à vous, et elle concerne tout le monde. Comment se fait-il qu'on retrouve les vêtements à 150 mètres? Parce que les vêtements, ils ne roulent pas comme roule le crâne d'une personne. Ils ne se déplacent pas au même endroit. Une bête ne va pas les emmener. On a là quand même une curiosité.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est l'analyse de l'IRCGN sur ses vêtements. C'est-à-dire que, notamment, les traces qu'il peut y avoir dessus, l'ADN, les ADN, y compris les ADN de certains animaux, pourquoi pas, je ne sais pas, les déchirures, les coupures, est-ce que ce sont des déchirures naturelles, ouais. Est-ce que ce sont des déchirures occasionnées par une arme tranchante, un cutter ou tout autre, on ne sait rien. Et tout ça, ça va être des réponses qui vont être très importantes et qui vont faire parler les vêtements. Donc ces vêtements vont dire quelque chose. La deuxième chose, c'est que les vêtements sont facilement transportés par le vent et comme pour n'importe quelle pollution de la nature, vous allez retrouver des vieux sacs plastiques, etc., des t-shirts ou autres quand vous allez dans les forêts littorales ou autres, qui sont emportés par le vent et qui sont arrêtés par les branches. Naturellement arrêtés par les branches, arrêtés par des cailloux et autres, et qui vont s'incruster dans la nature. Mais ça peut effectivement être à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres.
Ça reste vraiment une chemise,
c'est très léger.
Général.
Une culotte, c'est très léger.
Il y a un autre élément qui est celui du transport par l'eau. Pensez tout simplement à vos machines à laver. En fonction de la densité du vêtement, la machine à laver va avoir un nombre de tours qui va être plus ou moins important. Vous avez des vêtements qui sont pris dans un ruisseau, ils n'ont pas la même densité que les eaux. Ils prennent du limon avec eux, ils tournoient entre eux, ils adhèrent au sol, etc., etc. Et quand le ruisseau reprend son lit normal, eh bien, ils se posent là où ils se sont entortillés dans la nature. Donc, les phénomènes naturels autour des vêtements seront très importants, très 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 importants.
Boris, un mot et Laurent aussi peut-être sur le climat qui règne en ce moment, parce qu'on voit bien toutes ces questions qui se posent. Le Haut-Vernay est encore bouclé pour 8 jours, c'est la décision qu'a annoncé le maire. Quel est le climat qui règne ?
Climat, je dirais, de pesant. Les habitants commencent à se lasser de la situation. Enfin, on a pu le mesurer ces derniers temps. Demain, on sort le 8 avril, donc on en est donc quasiment à 8 mois, donc, ouais. Même plus. Donc, 9 mois de depuis le début de cette affaire. Donc c'est vrai que sur place, les habitants commencent un petit peu à se lasser. La découverte du crâne ne convainc pas beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises ces derniers jours.
On a du mal à croire à la thèse de l'accident.
Voilà. Donc on a rencontré beaucoup de riverains qui ne sont pas convaincus par cette thèse-là, sachant qu'ils ont
de l'accident.
De l'accident, oui, tout à fait. Oui. Donc c'est un peu trop simpliste pour leur part. Selon eux, donc voilà, donc il y a toujours ce climat de suspicion, donc voilà, c'est lourd, un climat très lourd.
C'est comme ça dans toutes les affaires. Oui. Il y a ceux qui veulent croire à l'accident. Oui, voilà. Moi, je me mettrais plutôt dans ce cas-là, personnellement. Mm-hmm. Mais pas aucun élément, c'est juste. Oui. Et il y a ceux qui seront jamais convaincus, oui. Quoi qu'on leur dise et quoi qu'on leur démontre, qu'Émile s'est perdu.
Parce qu'il faut non, parce que le terrain donc n'est pas forcément propice à un accident, donc à ce genre d'issue. Donc voilà, c'est peut-être pour ça donc que les habitants sont vraiment très étonnés de ce scénario-là. Quoi.
Si vous permettez, juste pour reprendre ce que dit Dominique Rizet, si on a les pourcentages du nombre de morts par an en France dans le cadre d'accidents domestiques à la maison, de façon parfois complètement stupide, c'est un chiffre très impressionnant. Mmh. Très impressionnant. Oui. Donc un accident est toujours possible, bien sûr. Bien sûr. A fortiori sur un enfant. Pour un enfant de 2 ans et demi, surtout en pleine nature.
C'est important de rappeler que le village s'est vidé de ses habitants depuis le début de l'hiver. C'est un village qui vit essentiellement, et Laurent pourra le confirmer, entre juin et septembre. Il n'y a quasiment personne au Vernay en bas. Seulement 2-3 habitants, il y a encore, qui sont partis récemment en congé. Mais on va dire que la tristesse a laissé place à la stupéfaction. Stupéfaction parce que tout le monde dit, mais cette zone, on l'a ratissée, on l'a surratissée. On rappelle qu'il y a eu 97 hectares qui ont été passés au peigne fin. Les chiens pisteurs, donc qui travaillent essentiellement sur des zones chaudes, sont passés par cette zone-là. À l'inverse, des chiens en recherche de cadavres qui n'ont pas pu accéder à cette zone-là. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Peu de personnes sont convaincus par la thèse de l'accident. Il y a aussi une interrogation en raison du timing, puisqu'on le rappelle, cette découverte, elle intervient 2 jours après la mise en situation. Elle intervient le jour de Pâques, alors qu'on sait bien que cette famille est très croyante, très pieuse. Donc certains nous disent, mais c'est quand même bizarre, 2 jours avant, il y avait une mise en situation. Est-ce que ça veut dire qu'une personne au Vernay ou même au Vernay a paniqué et s'est débarrassée en quelque sorte des ossements du petit Émile avant que ça se referme sur lui? Donc Beaucoup d'interrogations, beaucoup de tristesse également, et surtout une grosse pensée de la part de tout le monde pour les parents du petit Émile qu'on a pu, avec Laurent, oui, apercevoir jeudi après la mise en situation.
Je suis tout à fait d'accord avec la thèse de cette personne qui aurait paniqué, qui verrait que l'enquête avance à grands pas, et peut-être que dans un geste de panique, se serait débarrassé du corps. Là, il y a toutes ces hypothèses qui circulent autour de ce hameau. Il faut se dire, comme disait Boris, c'est quoi, c'est 100 habitants ouais, au courant de l'année, et encore, je suis assez large. Il y a une dizaine d'habitants au Vernet, une vingtaine en bas. Voilà, c'est vraiment un huis clos. On est dans un huis clos total. Et ces hypothèses circulent de manière régulière. Donc, ça crée un climat d'une lourdeur extrême.
On l'a bien compris en vous écoutant. Toutes les hypothèses sont possibles. L'accident, le crime, l'homicide involontaire. Le procureur en charge, d'ailleurs, de la disparition et de la mort maintenant du petit Émile est très prudent. Il le dit, aucun scénario n'est privilégié pour le moment. D'ailleurs, il n'y a aucun scénario qui soit pleinement satisfaisant. On va les évoquer dans un instant avec nos invités. On va tous les reprendre pour y voir les incohérences, les coïncidences troublantes, voir s'il y a la main de quelqu'un derrière tout cela. Mais d'abord, notre long format, la mort d'Émile, crime ou accident. C'est un document signé Stéphanie Zenati, Juan Palencia, Régis Desconclois avec Simon Terrassi, Emmanuel Abraune et Guillaume Lavial.
C'est un village très vivant, qui bouillonne avec des vélos qui passent partout, des enfants qui crient, donc c'est très vivant.
David et son épouse Magali sont tombés amoureux du Vernet et y ont emménagé il y a 7 ans avec leurs enfants. Mais depuis la disparition d'Émile, l'ambiance a changé.
Une espèce d'intranquillité comparée à l'époque qui précédait la disparition.
Les enfants jouaient beaucoup à l'extérieur, faisaient du vélo, traînaient dans la rue. Hein. C'est vrai que les semaines qui ont suivi, on leur demandait de plus y aller seul, d'y être avec un grand, d'être accompagné, parce que on imaginait le prédateur qui passe dans la rue. Voilà, on savait pas, hein. Enfin on sait toujours pas, mais on avait cette angoisse là.
Car malgré la découverte des ossements de l'enfant, plane toujours le poison du doute. Le mystère autour des circonstances de sa mort reste entier.
Il n'y a pas un scénario qui se détache d'un autre. Pour nous, avec les amis, quand on en discute, on reste dans le même état.
Une fois que la lumière sera faite, nous pourrons peut-être tourner la page sur cet épisode qui marque les esprits depuis maintenant plusieurs mois.
Depuis 9 mois, toute une région est tentée par le visage de ce petit garçon au regard rieur qui, sur cette photo, fête ses 2 ans. Tout s'est accéléré ce jeudi 28 mars. En ce début de journée humide et froid, une vingtaine d'enquêteurs investissent cette petite route qui mène au hameau du Haut-Vernet. Le secteur, survolé par un drone, est bouclé. Les journalistes tenus à l'écart, à 2 km en contrebas. Derrière ces barrières, se rejoue à huis clos la fin d'après-midi du 8 juillet 2023.
Il va falloir forcément trouver l'indice, trouver l'élément permettant de faire avancer cette enquête.
Une mise en situation à laquelle participent 17 personnes au total. La famille de l'enfant, ses grands-parents, ses oncles et tantes, mais aussi les témoins qui disent l'avoir aperçu ce jour-là.
Le principe de cette mise en situation, c'est que vous remettez tout le monde dans le contexte et qu'un des témoins peut quand même à un moment soit se contredire ou craquer littéralement et puis dire « ben voilà, je sais ce qui s'est passé ».
Après 10 heures sur place, les parents d'Émile repartent dans l'une de ses voitures. La mère de famille, Marie, est au volant avec son écharpe sur la tête, aux côtés de son mari Colomban, sur le siège passager. Juste derrière eux, dans un autre véhicule, le grand-père de l'enfant. Tous ignorent que moins de 48 heures plus tard, l'espoir de le retrouver vivant va s'envoler, définitivement. L'enquête va prendre une nouvelle tournure, avec un rebondissement de taille.
Édition spéciale sur BFM TV avec le corps du petit Émile a été retrouvé, des ossements qui ont été retrouvés par un randonneur dans le hameau du Haut-Vernet.
La randonneuse qui vient de faire la sinistre découverte porte directement le crâne à la gendarmerie.
D'après nos informations, effectivement, elle est tombée dessus, ne sachant pas trop ce que c'était. Elle a décidé de l'amener à la gendarmerie et c'est alors que les gendarmes ont commencé les expertises sur le crâne.
À partir de là, les choses se précipitent. Les ossements sont envoyés par hélicoptère à Pontoise, en région parisienne, pour être analysés par des anthropologues. Ils vont devoir répondre à plusieurs questions.
Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un enfant? Et ensuite, une fois le profil génétique établi, on l'a comparé avec des profils génétiques qu'on avait déjà collectés dans le cadre de l'enquête. Et ça nous a permis de confirmer l'identité d'Émile.
Qu'est-il arrivé au petit garçon? Comment s'est-il retrouvé sur ce chemin escarpé, à environ 2 km de la maison de ses grands-parents? S'agit-il d'un accident ou d'un crime?
C'est incompréhensible. C'est un roman noir, quoi.
La vérité est peut-être, en ce moment même, dans les mains des enquêteurs.
Vous êtes dans un hameau, 1200 mètres d'altitude, un cul-de-sac, et vous avez là une espèce de cuvée d'eau grandeur nature.
Tout commence le 8 juillet dernier. C'est le début des grandes vacances d'été. Dans ce paysage de cartes postales, entre pâturages et montagnes, au cœur des Alpes de Haute-Provence, Émile vient de rejoindre ses grands-parents dans le village du Haut-Vernay. Depuis plus de 20 ans, la famille passe tous ses étés dans une grande maison au cœur du hameau.
Ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment une maison de montagne, donc c'est hyper rustique. On a de la pierre, on a du bois, on a une grande table, hyper solide, une table familiale, sur laquelle il y a toujours un café ou un morceau de tarte. Et du coup, on est vraiment plongé en fait, dans l'intimité d'une famille, et une famille pleine de vie.
Samuel Pruvot, de l'hebdomadaire Famille Chrétienne, est le seul journaliste à y être entré et à avoir rencontré la famille du petit garçon. Une famille nombreuse, avec à sa tête Philippe et Anne. Ce sont les grands-parents d'Émile. Ils n'ont qu'une cinquantaine d'années.
C'est les grands-parents plutôt qu'on sent actifs. Ils sont très créatifs. Le grand-père, il fait des cabanes dans les bois. Et puis, avec un côté très, pas du tout néo-rural, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être néo, puisqu'en fait, ils sont de là, quoi. Et donc, ils sont super bien implantés dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est une famille qui semble assez soudée, une famille nombreuse. Donc, les grands-parents ont eu 10 enfants, dont Marie, donc l'aînée, qui est la mère d'Émile, qui a 25 ans. Ils sont catholiques, pratiquants, ils vont à la messe assez régulièrement. La messe, les femmes chantent, les enfants jouent tous d'un instrument de musique. C'est une famille qui vit selon ses propres traditions.
Ce 8 juillet, dans la maison, aux côtés d'Émile et de ses grands-parents, se trouvent aussi ses oncles et tantes, dont le plus jeune est âgé de 8 ans.
La journée de sa disparition, il a profité de la journée comme d'habitude avec ses oncles et tantes. Ensuite, l'après-midi, il aurait fait une sieste jusqu'aux alentours de 17h. Ensuite, il aurait été changé par sa grand-mère. Et peu après 17h, le grand-père, les oncles, les tantes, jeunes, devaient s'en aller pour monter une clôture en bois sur le secteur du Haut-Vernay.
Et au moment où les grands-parents sont en train de charger le coffre de la voiture, on est aux alentours de 17h, 17h15, ils se rendent compte que le petit Émile qui était en train de jouer dans le jardin, juste à côté de la voiture qu'ils sont en train de charger, a disparu. Et à 18h environ, la grand-mère du petit garçon va contacter le 17 pour donner l'alerte.
Et du coup, elle leur explique que leur petit-fils a disparu, qu'il a échappé à leur surveillance, qu'il porte un short blanc, un t-shirt jaune.
Colomban et Marie, les parents d'Émile, ne sont pas présents dans le village au moment de la disparition. Ils se trouvent à 2 heures de route, à la Bouilladis, près de Marseille, là où il réside.
On a appris qu'il y avait un petit garçon qui avait disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite, en fait. C'est un collègue à moi qui, il y a un compte Facebook sur la Bouilladis. C'est là que j'ai vu, en fait, il y avait des gens de la Bouilladis qui se proposaient d'aller au Vernet pour participer aux battues, etc. Quand j'ai vu la photo d'ici, j'ai compris de suite, quoi.
Sur place, au Vernet, la panique s'est emparée de tout un village. Les gendarmes arrivent à 18h40.
Les gendarmes vont tout de suite prendre l'appel très au sérieux parce qu'il faut savoir qu'en matière de disparition d'enfants, toute disparition est jugée inquiétante d'emblée.
Très rapidement, de gros moyens ont été déployés. Moyens aériens également, avec un hélicoptère qui a été dépêché sur place.
L'enquête démarre avec ses premières questions cruciales. Où Émile a-t-il été vu pour la dernière fois ? Et où est-il allé en sortant de la maison de ses grands-parents ? Deux témoins disent l'avoir aperçu dans la rue principale du village, dont un adolescent.
Ce témoin m'a expliqué qu'il faisait des travaux dans son habitation cet après-midi-là, qu'il avait aperçu le petit garçon. Pour lui, il était entre 16h45 et 17h. Il a vu que le petit descendait. Et on est sur un terrain qui descend, sur une pente. Donc c'est vrai que quand ceux qui ont eu des enfants et qui connaissent ces enfants, un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, on a du mal à imaginer que naturellement, il va monter. Il va plus forcément descendre.
Des chiens à l'odorat exceptionnel sont alors déployés dans le hameau pour tenter de retracer le trajet exact qu'aurait pu emprunter le petit garçon. Des Saint-Hubert qui, dès les premiers jours, repèrent la trace de l'enfant sur ce chemin.
Ils ont arrêté de marquer ici. Là, ici, au lavoir. Et il semble, celles et ceux qui connaissent le petit et sa famille, que le petit Émile aimait venir ici. Pourquoi ? Parce que là, il y a des lapins dans une cage et... Apparemment, il aimait beaucoup venir voir les lapins. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il soit peut-être venu ici, s'il en avait l'habitude, voir les lapins, donner à manger aux lapins.
Voilà. C'est la dernière trace qu'on a d'Émile à priori.
Ouais. A priori, ouais. C'est là, c'est ici.
Les Saint-Hubert, eux, ils ont cette particularité d'être capables de retrouver une trace relativement précise. Ils vont marquer un endroit, repartir, revenir en arrière. Voilà, c'est comme ça. Ils finissent par faire des cercles concentriques et puis à se rapprocher du dernier endroit où ils arrivent à sentir quelque chose. Et là, en l'occurrence, les Saint-Hubert, ils ont marqué donc près du lavoir et après plus rien. Donc le petit, c'est comme s'il s'était volatilisé à cet endroit-là où il avait été soulevé de terre.
Comment Émile a-t-il pu se volatiliser ? Où a-t-il pu aller ensuite ?
On sait qu'on découvre le crâne dans une zone qui est à environ 1,5 km à vol d'oiseau du Haut-Vernay. On sait qu'il est découvert dans une zone au milieu de la végétation.
Deux jours plus tard, à 150 mètres, c'est les vêtements que portait le petit garçon ce jour-là, à savoir un t-shirt, une culotte, des chaussures. On ignore dans quel état ces vêtements ont été découverts, si le t-shirt est en quelque sorte entier ou si ce n'est que des restes, des lambeaux de vêtements.
Émile a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? Dès le début des recherches, l'été dernier, la zone avait été ratissée minutieusement par les gendarmes.
La zone qui est là, les bénévoles, les gendarmes, les chiens, ils sont passés. Ça, c'est pas un secret. C'est passé cet été. Ça fait partie notamment de la première vague où on cherchait Émile, on espérait le retrouver vivant.
Il y a aussi des hélicoptères avec des caméras thermiques. Bref, cette zone, on l'a observée de multiples fois.
Autour de la maison des grands-parents d'Émile, 97 hectares ont été ratissés. Les habitations ont toutes été fouillées, les voitures inspectées, les puits et les points d'eau sondés.
Il y a même un instrument de l'armée qui a été utilisé pour scanner les balles de foin. Ils se sont dit, très logiquement, on ne sait jamais s'il était dans un champ, peut-être qu'il a été pris malencontreusement. Et donc, ce scanner haut de gamme permet de détecter même un bouton de pantalon, quoi.
De nombreuses battues ont également été organisées. Dès le premier soir, des volontaires affluent de toute la région pour participer aux recherches.
Il y a même des entreprises qui ont mis leurs salariés au repos pour monter et prêter la main et essayer de retrouver le petit garçon.
On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village, c'est un choc pour la famille. Donc on est bien obligé de venir.
J'ai cherché. Je l'ai appelé, j'ai appelé Émile. Parce que c'est comme si je cherchais mon petit-fils, quoi. Ça a été tellement fort que c'est encore en moi. Cette angoisse de vite retrouver Émile, en voulant absolument éviter qu'il passe une nuit dehors.
Les gendarmes vont expliquer à ces volontaires comment fonctionne une battue. Ils vont les organiser par groupe.
Le but, c'est de converger vers le Vernet. On vous aiguille. Là-bas, on fait une vague énorme parce qu'on est quand même très nombreux. Le but, c'est de faire un éventail pour revenir jusqu'ici, pour verrouiller toute la zone qui n'a pas encore été couvert jusqu'à hier.
Il y a un vrai système qui va se mettre en place avec un ratissage assez précis et minutieux de la part de ces citoyens.
On resserre à droite, on fait un maillage serré.
David et Magali Lamy, les voisins du Vernet, ont participé à ces premières battues. Un exercice loin d'être infaillible selon eux.
On était vraiment fatigués, éreintés physiquement, et puis la chaleur aussi. On a marché toute la journée, en fait. On était égratignés aux jambes, aux mains, en sueur, épuisés, oui. Oui, c'était physiquement assez éprouvant.
À un moment, il y avait un petit cabanon. Donc là, ça casse un petit peu la ligne parce que donc on s'arrête, on essaye de rentrer dans le cabanon, de regarder tous les recoins. Donc la ligne continue sans nous. Après, faut rattraper. C'est pas forcément évident à gérer.
Les bénévoles sont des humains, même en soulevant de multiples branches et en déplaçant des rochers, peut-être qu'ils n'ont pas pu trouver un petit corps qui aurait été dans une configuration qui ne permettait pas de le retrouver à ce moment-là. C'est possible.
Émile a-t-il pu échapper à la vigilance des volontaires? Des chiens étaient aussi intégrés au dispositif. Pouvait-il ne pas sentir le petit garçon?
Les chiens pisteurs, ils sont intervenus très rapidement après la disparition du petit Émile. Ils ont parcouru cette zone où a été retrouvé le crâne et les ossements du petit garçon. Mais les chiens en recherche de cadavres, qui recherchent donc des morts, des corps, eux, n'ont pas parcouru ce périmètre-là.
Une autre question interroge les enquêteurs. Comment ce petit garçon a-t-il pu s'éloigner autant de son domicile? Émile était-il capable de marcher seul si loin et si longtemps? Au moins 50 minutes selon les estimations.
Moi, ça ne me surprend pas qu'un enfant fasse 1,5 km. Même un enfant de 2 ans et demi. Parce qu'Émile, il vient régulièrement ici. Les oncles d'Émile, certains ont 16, 17 ans, marchent, vont un peu en montagne, font un peu de randonnée. Et on raconte que Émile partait parfois avec eux. Donc c'est un enfant qui sait marcher.
Et s'il a marché, par où a-t-il pu passer? À partir du lavoir, ici entouré en rouge, Émile aurait pu continuer à descendre jusqu'à un petit chemin forestier. Ce chemin, Christian le connaît comme sa poche. Cet enfant du pays vit au Vernet depuis toujours.
Cet endroit, c'est l'endroit où on va balader, où on va ramasser les champignons, où on va à la chasse. Où c'est un endroit, c'est un plateau d'altitude qui est très accessible, qui n'est pas très escarpé, contrairement à ce que tout le monde dit. Et puis c'est un endroit sympa, quoi, c'est joli, il y a les beaux paysages.
Il imagine facilement comment le chemin aurait pu se transformer en piège mortel pour Émile.
Il y a des bosquets, il y a des arbres, il y a des haies, il y a des champs qui sont cultivés, des champs qui sont en pâturage. C'est un plateau d'altitude montagnard. Pour un enfant de 2 ans et demi, un simple talus, ça peut être un endroit mortel pour lui. S'il débaroule sur 3-4 mètres, il se casse un fémur, il reste là et il meurt là.
D'après les premières constatations, le crâne d'Émile a été retrouvé sans trace de coup antémortem.
Ce que l'on sait, c'est que le crâne du petit Émile n'a pas été enterré. Il y a eu d'importantes intempéries ces derniers mois, ces dernières semaines. On sait que ce crâne-là, il a été altéré par ces intempéries. Mais on ne sait pas depuis combien de temps ce crâne, il a été positionné dans cette zone, s'il a été ou non déplacé.
S'il a été déplacé, c'est par qui ou par quoi? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a les intempéries. On est sur une zone où il pleut, il y a des mouvements de terrain, ça bouge, tout ça, ça peut déplacer des ossements, ça peut les fragmenter, les répartir dans différentes zones. Ça peut être aussi un animal qui trouve un os quelque part et le déplace, l'amène à un autre endroit. Ou bien sûr, ça peut être l'intervention humaine, quelqu'un qui avait ce cadavre et qui a décidé de le déplacer pour une raison qu'on ignore encore.
Samuel Fléché est droniste. Il habite à 17 km du Vernet. Depuis 9 mois, il a suivi tous les rebondissements dans l'affaire de la disparition d'Émile. Et aujourd'hui, il peine à croire à la piste accidentelle.
Quand j'ai appris l'endroit où il a été découvert, je me dis c'est pas possible. Parce que c'est un lieu qui a beaucoup trop de passages. Il y a des randonneurs, il y a une piste à côté qui est souvent empruntée par les gens du Vernet. Il y a eu des coupes de bois, si je ne me trompe pas, en automne. Puis c'est un lieu qui est vachement fréquenté.
Ce sentiment est aussi renforcé par son implication lors des fouilles pour retrouver Émile. Dès le lendemain de la disparition du petit garçon, il a été mobilisé par la gendarmerie. Son drone personnel a été mis à contribution.
Quand je suis en altitude, dès que j'ai le moindre petit doute, sur un objet, une couleur, ou ça peut être une branche, je peux descendre, aller vérifier. Je peux voler très bas, donc je peux avoir une image qui est vraiment nette. Je peux également passer vraiment entre les arbres, entre certains buissons, descendre faire des vallons qui ne sont pas accessibles à pied.
Avec son engin, il a passé au peigne fin la zone dans laquelle les ossements d'Émile ont été retrouvés.
Certains ravins, je les ai fait au moins 5 ou 6, voire même, il y en a que j'ai dû passer 7 fois au moins dessus. Et ça me surprend vraiment qu'on soit passé au-dessus et qu'on ne l'ait pas vu.
Toutes les hypothèses restent pour l'instant sur la table. Accident ou piste criminelle. Dès le mois de juillet 2023, le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, avec plusieurs scénarios. L'accident de voiture ou de tracteur, le rôdeur, délinquant sexuel, la famille. S'il y a eu intervention humaine, la clé de l'énigme se trouve forcément au Haut-Vernet.
Et donc, les gendarmes, ils sont au cœur de ce cluedo, en train d'essayer de rassembler les éléments, mais on est vraiment dans un tout petit périmètre, avec peu de possibilités qu'un étranger monte dans le village sans être aperçu. C'est tellement petit que tout le monde s'auto-surveille finalement, et tout le monde voit un véhicule qu'il ne connaît pas.
Les gendarmes procèdent aux auditions des habitants. Certains sont entendus plusieurs fois, les emplois du temps vérifiés, recoupés. Dans ce village, l'atmosphère se tend. Gilles est un voisin du Bas-Vernet. 60 ans qu'il est tombé amoureux de ces paysages grandioses. Il déplore les suspicions qui rongent alors le hameau.
Il y a beaucoup de gens qui... On ne sait pas pourquoi on racontait des choses, et alors qu'il n'y avait rien à raconter, quoi. Les gens parlent et parlent mal, quoi. Alors il ne faut pas accuser le voisin. Nous ne sommes pas la brigade d'investigation. Chacun son travail. Moi, j'attends, c'est tout. C'est pas la peine de dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. On se croirait pendant la guerre. Quand il y a eu les dénonciations, c'est la même chose, quoi. On a accusé des gens à tort, quoi. Qui ont dû passer de longs interrogatoires, quoi. Alors qu'ils n'y étaient bien sûr pour rien, quoi. Voilà. Alors il y a un peu. Mais c'est comme pendant la guerre, il y a un peu des vengeances personnelles qui se sont passées, quoi.
Les habitants, les voisins, les familles qui ont ici leur maison secondaire, personne ne veut croire que l'un des leurs soit mêlé à cette disparition sordide. Le petit Émile aurait-il pu être repéré par un rôdeur, un pédocriminel qui s'en serait pris à lui ?
La piste de l'enlèvement est toujours envisagée. Quelqu'un a pu se rendre là-haut en voiture sans qu'on l'aperçoive, bien que, en fait, le long de la route qui monte au Vernet, il y a des maisons qui sont habitées la plupart par des personnes âgées ou des personnes qui connaissent, en fait, les gens de là-haut, les gens d'en bas, et qui connaissent un peu les emplois du temps, les plannings de chacun. Donc c'est vrai que si une voiture extérieure ou inconnue était montée là-haut, on a tendance à penser qu'elle aurait été remarquée. Après, tout est possible et le village est quand même traversant.
Une hypothèse, difficile à croire, mais pas totalement impossible. En effet, le village est un cul-de-sac. On y accède par le bas de la vallée, par une route départementale. En haut, c'est une impasse. En bas à droite, là encore, la route s'arrête. Mais il existe ce chemin forestier caillouteux qu'une voiture aurait pu aussi emprunter pour sortir du hameau. Autre possibilité, celle de l'accident de la route avec délit de fuite. Le petit garçon aurait-il pu être renversé par un chauffard qui se serait ensuite débarrassé du corps ?
Il y a la possibilité qu'on ait caché un véhicule. On ne peut pas l'exclure. Que le véhicule en question était mis à l'abri quelque part, nettoyé aussi. On a pu constater, nous journalistes, quand nous y étions, il y a vraiment beaucoup de tracteurs qui circulent dans ce village, parfois à vive allure. Et puis c'était l'époque des foins. Donc du coup, les engins agricoles allaient, venaient. Donc c'est une piste que les gendarmes ont d'ailleurs suivie. Ils ont mené des auditions sur la question.
Un jeune agriculteur de 16 ans va se retrouver dans le viseur des enquêteurs. Nous l'appellerons Romain. Pour la première fois, sa mère a accepté de nous recevoir en sa présence dans la ferme familiale située à 4 km du Haut-Vernay.
Il y a une cinquantaine de bêtes là dans le bâtiment. Des génisses, des vaches, des taureaux, voilà tout ce qu'il faut pour avoir une exploitation qui tourne. C'est du boulot. C'est une passion. C'est une histoire de famille.
Elle et son fils ont été entendus plusieurs fois par les gendarmes. Leur exploitation perquisitionnée, leurs tracteurs et véhicules inspectés. Car Romain a eu un litige avec le grand-père d'Émile. Quelques jours avant la disparition du petit garçon, il a effectué des travaux de terrassement devant la maison de son cousin située en face de celle de la famille d'Émile. Le matin du 8 juillet, alors que Romain repassait chez son cousin dans le hameau, le grand-père lui a reproché vertement d'avoir abîmé une partie de son terrain avec son tracteur.
Ce jeune agriculteur, il a eu une altercation le matin avec le grand-père. Ça fait pas de lui quelqu'un de suspect. Bon, une gueulante dans un village ou dans un hameau, ça existe comme partout, tout le temps. Et il s'avère que le grand-père d'Émile est quelqu'un qui a son caractère et qui n'est pas le dernier pour pousser des gueulantes. Une gueulante parmi tant d'autres. Mais il s'avère aussi que ce jeune agriculteur a pris l'habitude de rouler vite avec son tracteur ou avec son quad. Il a eu, par le passé, des petits accidents ici et là avec des touristes, des gens du coin.
Romain et sa mère contestent avoir abîmé le terrain du grand-père. Quant à la conduite rapide et dangereuse de Romain, il ne s'agit pour eux que de rumeurs et de ragots, colportés par des habitants du village.
On connaît la bêtise humaine, on sait de quoi les gens sont capables, donc voilà, on n'est pas étonnés non plus. Les enquêteurs font quand même la part des choses et ils nous l'ont dit. Dans tous les cas, voilà, ils ont bien dit à mon fils, dans tous les cas, si les journalistes te demandent, tu leur diras que toi, t'es pas mis en examen.
Le jeune homme a été entendu en tant que témoin. Il n'a jamais été placé en garde à vue, ni mis en examen. Gilles a suivi cette affaire dans l'affaire depuis le début. Lui qui connaît très bien la famille a vu les ravages qu'ont pu faire ces accusations sur Romain.
On peut dire qu'il a été comme un accusé, quoi, d'avoir commis quelque chose, quoi. Alors que, qu'il n'y a rien du tout, parce que s'il y avait eu quelque chose, la police l'aurait emporté, quoi. Parce que depuis le début, c'est un enfant qui a toujours son téléphone avec lui, quoi. Donc les enquêteurs savent très bien, minute par minute, où il était quand le petit a disparu, quoi.
Selon ses proches, des éléments de téléphonie permettent de dire que Romain ne se trouvait pas au Haut-Vernay l'après-midi du 8 juillet, au moment de la disparition d'Émile. L'analyse de la téléphonie, un outil précieux dans la main des enquêteurs. Cela peut leur permettre d'avoir une idée précise des personnes présentes sur place le jour de la disparition du petit garçon.
Ce c'est maintenant une arme extrêmement importante dans les enquêtes. 1600 appels, hein, 1600 en tout cas conversations téléphoniques, messages qui ont été échangés dans une zone assez large qu'il faut analyser. La gendarmerie a pu s'appuyer pour ça sur Anacrim, qui est un logiciel qui permet de recouper des éléments qui a priori n'ont rien à voir entre eux, une plaque d'immatriculation et un téléphone portable, des choses comme ça.
Au mois de novembre, ce travail d'analyse, long et fastidieux, va conduire les gendarmes à mener des perquisitions chez 36 personnes, au Auvernais, mais aussi dans d'autres départements.
Ont été concernées toutes celles et ceux qui étaient présents physiquement au hameau du Auvernais, le jour de la disparition d'Émile, à la fois leur résidence secondaire, mais aussi leur résidence principale. C'est pour ça qu'il y a eu également des perquisitions dans d'autres départements, les Bouches-du-Rhône, mais même du côté de Saint-Étienne. Et à l'heure où l'on se parle, ils sont toujours en train d'éplucher ces données qu'ils ont récupérées.
Reste un point d'interrogation, le profil de la famille d'Émile. Cette famille catholique, traditionnaliste, aurait-elle pu être victime d'une vengeance, d'un règlement de compte, en raison de son engagement à l'ultra-droite? Les parents d'Émile, Colomban et Marie, ont fait partie du Bastion Social, un mouvement néo-fasciste fondé par des anciens membres de l'Action Française, aujourd'hui dissous. On les voit ici sur cette photo, entourés de leurs camarades. Colomban, qui est alors étudiant ingénieur, comparé en 2018 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir molesté un couple d'origine maghrébine. L'un de ses camarades est condamné, lui sera relaxé. Le père d'Émile a tenu à donner des précisions sur cet épisode de leur vie dans l'hebdomadaire Famille Chrétienne.
On a largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons fait, en effet, un bref passage avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques, sans jamais y avoir commis quoi que ce soit de répréhensible.
Ils m'ont expliqué en fait pourquoi ils l'ont quitté. Ils se rendent compte en fait que dans ce groupe, il y a des thèses néo-païennes. Les thèses néo-païennes, c'est assez simple, c'est de dire le judéo-christianisme égale, comme dirait Nietzsche, la faiblesse. Et donc, Jésus, c'est un problème parce que c'est un prédicateur juif. Et là, tous les deux se disent, nous, en fait, on est chrétiens catholiques, on ne peut pas cautionner un discours comme ça.
Les enquêteurs n'excluent aucune piste, d'autant que la famille et leurs voisins ont déjà subi un incendie criminel. Boulard, petit hameau à 12 km du Auvernais. En 1968, les arrière-grands-parents d'Émile achètent avec trois copains les maisons et l'église du village. Catholiques, utopistes, ils rêvent d'un lieu de vacances où ils vivraient heureux. Mais en 2019, le hameau est la cible d'un incendie intentionnel. Plusieurs mises à feu sont découvertes dans les ruines. La police ne retrouvera jamais l'auteur. La famille du petit garçon, elle, ne croit pas à l'hypothèse d'un règlement de compte. Les parents d'Émile ont choisi de ne pas s'immiscer dans l'enquête.
Il y a aussi une parole moi, qui m'a beaucoup marqué, que je n'imaginais pas du tout. Hein. C'est une parole de Marie qui disait « En fait, nous, notre situation de parents, elle est tellement difficile, c'est tellement difficile à gérer pour nous, du point de vue émotionnel, la disparition de notre fils. On ne va pas, en plus, prétendre, nous, faire l'enquête. » On a déjà assez de choses à faire.
Les gendarmes doivent envisager toutes les hypothèses, y compris la plus sensible, la responsabilité d'un membre de la famille. Le petit garçon aurait-il pu être victime d'un accident domestique, d'une correction qui tourne mal? La maison familiale du Auvernais et celle de la Bouilladis ont-elles aussi été perquisitionnées? Et la personnalité des grands-parents passée au crible. Des voisins décrivent une grand-mère soumise et discrète et un grand-père austère et rigide.
J'ai jamais vu de gestes déplacés, ça c'est sûr qu'ils sont rigoureux. Ça c'est les enfants qui bronchent pas, on voit qu'ils ont été habitués à respecter ce qu'on leur donne, les consignes qu'on leur donne. Bon, point barre.
Une enquête éprouvante pour cette famille soudée.
Faut pas oublier qu'on a une famille qui est dans la douleur, qui a perdu un petit de 2 ans et demi, et que il ne s'agit pas de rajouter de la douleur à la douleur.
Je sens des gens qui sont très dignes, mais qui sont effectivement en grande souffrance, et qui, loin de s'accuser mutuellement, essayent au mieux de se soutenir. Et je vois les enfants qui manifestement continuent de faire confiance aux parents et encore une fois aux grands-parents qui avaient la garde. Ça me sidère de voir effectivement une famille unie.
Quand il les a rencontrés le 29 août 2023, Samuel Pruvot a été marqué par ses parents confrontés si jeunes à une telle épreuve.
Quand on les rencontre, on est soi-même en fait ravagé par la douleur qu'ils portent. C'est quelque chose qui est survenu il y a peu de temps. C'est un jeune enfant, donc c'est le maximum de l'horreur. Donc je sens des gens qui sont sous pression et je suis moi-même en fait écrasé par la douleur en fait qui est la leur.
À l'époque, ils avaient choisi de parler pour remercier tous ceux qui les ont accompagnés dans cette épreuve. Ils ont reçu des dizaines et des dizaines de messages du monde entier.
On imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer.
Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche.
Marie et Colomban reprennent la parole le 24 novembre dernier, à la veille du 3e anniversaire de leur petit garçon. Cette fois, il s'agit d'un message audio relayé par le magazine Famille Chrétienne, un appel à l'aide.
En fait, ce message, pour prendre une image, c'est une bouteille à la mer. Le message audio, ce qui est important, c'est qu'ils l'ont pensé eux-mêmes, ils l'ont écrit eux-mêmes, ils l'ont enregistré aussi eux-mêmes, tous les deux, même si c'est Marie qui parle plus que Colomban.
Colomban et Marie, les parents d'Émile.
Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé.
C'est un cri du cœur des parents, parce que leur douleur est insupportable, de dire « Nous, parents, nous voulons savoir à tout prix. »
Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur.
4 mois après cet appel, c'est par les gendarmes que Marie et Colomban sont prévenus que les ossements de leur fils ont été découverts. Leur avocat publie alors ce communiqué.
Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux, dans la lumière et la tendresse de Dieu.
À Notre-Dame-du-Lot, tout près de la commune du Haut-Vernay, le dimanche de Pâques a été vécu avec une ferveur toute particulière. Le père Michel Desplanches qui a fait part de la découverte des ossements aux fidèles.
Je l'ai annoncé avant l'adoration eucharistique du dimanche après-midi. On a senti vraiment l'émotion frapper tout le monde. Ça fait 9 mois que nous prions à cette intention dans le sanctuaire. Donc évidemment, tous les pèlerins sont très, très marqués par cette histoire, comme tous les Français d'ailleurs.
C'est dans ce sanctuaire que les parents d'Émile sont venus prier ces derniers mois. Une petite chapelle a été érigée pour leur apporter soutien.
Comme vous le voyez, nous avons remis à l'honneur la photo du petit Émile, cette jolie photo avec son petit pissenlit. La famille a demandé que nous prions pour Émile expressément au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Là, nous l'avons remise ici pour la semaine pascale, puisque si vous voulez, Pâques, pour les chrétiens, ça dure une semaine. Donc voilà, nous l'avons remis ici, et puis maintenant, Émile, nous savons qu'il a trouvé en Dieu maintenant la lumière et la vie. qui ne finissent plus.
Pour ces chrétiens, la symbolique de Pâques et de la résurrection vient accompagner la perte de l'enfant. Le petit Émile qui était lui-même venu ici, au sanctuaire avec ses parents. Une quête de sens qui n'éteint pas la quête de vérité. Que lui est-il arrivé le 8 juillet dernier ? Un épais mystère continue de planer sur la vallée de la Blanche.
Aura-t-on trois scénarios, vous le savez, sont sur la table, celui de l'accident, celui de l'homicide involontaire et celui du crime. On va reprendre ces scénarios avec nos invités, toutes ces zones d'ombre dans cette mort du petit Émile. Martial Vilain nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien gendarme, vous avez travaillé 23 ans avec les équipes cynophiles et du coup votre expérience est évidemment très importante parce que le mystère dans ces trois scénarios, c'est d'abord celui de la disparition du petit Émile. On a beaucoup parlé des chiens ces derniers jours. Avec Laurent, d'abord peut-être un petit point de topographie. On voit tous maintenant les rues du Vernet. On voit cette rue qui emmène au lavoir. Le sentier sur lequel on va retrouver les ossements du petit Émile, il part de ce lavoir ?
C'est ça, donc le sentier donc, part à droite. Donc le lavoir est au... est vraiment à proximité de la maison des grands-parents. Le sentier part à droite et donc sur une première partie, une partie assez basse, assez descendante. Et je vous disais donc au milieu de ce sentier, donc une partie un peu plus accidentée, qui est supposément celle de la zone de recherche.
Donc, on a un lavoir. Au lendemain de la disparition, on fait venir les équipes cynophiles. J'imagine qu'on va leur faire sentir l'odeur de vêtements du C'est petit ça. Émile. Et on va mettre les chiens dans le village, en leur disant, tracer la piste, c'est comme ça que ça se passe ?
C'est ça. Dans un premier temps, quand on est saisi d'une disparition, la gendarmerie engage des moyens. Et parmi ces moyens, donc, sur une disparition, on a les équipes cynophiles de premier niveau. C'est des équipes qui sont compétentes généralement avec une double spécialité. Généralement, ce sont des pistes et défenses, ce qui leur permet de pouvoir travailler sur des missions et de secours et des missions judiciaires. Sachant que pour ces deux missions, le pistage va demander d'avoir une odeur de référence. C'est-à-dire, si on pouvait synthétiser l'odeur d'une personne, au même titre que l'ADN, on arrive sur quelque chose de très précis. C'est une carte d'identité olfactive. On va prendre cette odeur sur ce qu'on appelle une odeur de référence sur un vêtement, sur quelque chose qui a été perdu, enfin sur quelque chose qui appartient surtout à
l'enfant,
à l'enfant en l'occurrence, si on parle de ça. Et à partir de là, on fait sentir au chien cette odeur de référence, à lui de retracer l'itinéraire, alors, de le retrouver, ou effectivement aussi de pouvoir retrouver des objets lui appartenant qui peuvent se trouver sur cet itinéraire.
Alors c'est là qu'on a besoin de vos lumières. Les chiens vont aller jusqu'au lavoir et ils vont s'arrêter au lavoir. Pourquoi ne vont-ils pas sur ce sentier qui part du lavoir, qui est juste à côté ? Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent là ? Il y a évidemment plusieurs explications possibles. Quelles sont-elles ?
Il peut y avoir plusieurs explications. Maintenant, sans m'initier dans cette enquête, mais si le chien, normalement, doit aller d'un point A à un point B, rien ne dit que déjà il soit parti. Donc, si le point B est assez proche du point A, le chien va simplement faire une recherche de piste et puis automatiquement tourner autour de ce point A, ce point de départ. Oui. Après, il faut une continuité. Est-ce qu'on n'a pas une trace non plus olfactive qui est antérieure et que le chien aurait pu suivre ?
C'est-à-dire mais quand il est au lavoir, pardon, je reviens à ma question, mais quand il est au lavoir, pourquoi il ne va pas dans le sentier ?
Mais est-ce qu'il existe une trace olfactive ?
C'est-à-dire que,
s'il y en avait une.
Que l'enfant n'a pas suivi la piste.
Alors,
même.
Si, il peut très bien y en avoir une. Alors, pourquoi le chien ne le suit pas après? Oui. Alors, est-ce qu'au départ, on a une bonne discrimination et une bonne odeur de référence? Parce que là, c'est pareil, si vous tombez sur un objet qui est manipulé par plusieurs personnes, automatiquement, le chien va devoir aussi faire cette discrimination. Et on n'a pas l'odeur unique de la personne à rechercher. On peut avoir une cassure de piste, mais également, on peut avoir beaucoup de paramètres qui vont changer. On peut avoir la température, on peut avoir le vent, on peut avoir les curiosités, on peut avoir le nombre de personnes qui peuvent se trouver à proximité. Vous pouvez avoir le terrain, vous pouvez avoir beaucoup de facteurs qui peut contrarier le travail des chiens.
Alors, attendez, ça va se passer en deux temps. Donc d'abord, les Malinois ou les chiens des gendarmes primo-intervenants, vous avez dit,
c'est ça.
Ils font à la fois de la piste et de la défense, du mordant et de la piste.
Ils ont les deux.
Alors donc ceux-là, supposons que les Malinois trouve pas la piste. Après, on amène les Saint-Hubert et on nous dit le Saint-Hubert, il est extraordinaire.
Il peut pister sur un délai qui peut aller jusque 6 jours.
D'accord. Donc eux, ils n'ont rien trouvé non plus. Ils s'arrêtent au lavoir.
Je ne sais pas. Je peux pas vous dire parce que je ne connais pas l'enquête.
Non, mais quand ils s'arrêtent au lavoir, il y a deux hypothèses possibles. C'est ou les chiens ne vont pas sur le chantier parce qu'il n'y a pas l'odeur, et ça veut dire que le petit Émile, il a été transporté. Alors, il n'est pas passé par là.
Tout porterait à croire donc la thèse de l'enlèvement. Mais là aussi, vu la situation du hameau, il est impossible de ne pas être vu. Toutes les fenêtres donnent sur le petit rond-point donc à l'entrée du hameau. Il apparaît improbable que le petit ait pu être enlevé dans une zone où ça circule. Il y a beaucoup d'habitants qui transitent par là. Donc toutes les fenêtres des maisons donnent sur ce point-là. Ça me paraît très improbable que le petit Émile ait été enlevé.
Il y a deux témoins qui l'ont vu juste avant.
En plus, l'un qui l'a vu justement descendre et l'autre qui l'a vu monter.
Donc, enlèvement peu probable parce qu'il aurait été vu. Ça veut dire que s'il a emprunté ce sentier, ce que vous nous dites, c'est que techniquement, les chiens peuvent ne pas emprunter le sentier pour plein de raisons. Le vent, la chaleur. Techniquement, ils peuvent ne pas avoir senti l'odeur d'Émile sur ce sentier.
Il y a plusieurs facteurs. Le chien, comme tous les autres moyens, c'est pas infaillible. Le chien peut très bien aussi être confronté à des éléments qui risquent de perturber son travail. Alors, ça peut être... Une multitude de paramètres.
Le procureur de la République a parlé d'une chaleur de 30 degrés qui avait pu perturber les chiens.
Mais la chaleur, c'est un des paramètres parmi beaucoup d'autres. Vous pouvez très bien pister avec une forte température. Il y a des chiens qui peuvent le faire. Effectivement, c'est pas un des éléments les plus favorables, mais il faut le cumuler avec beaucoup d'autres choses.
Comprenne, qu'est-ce qui perturbe ? La chaleur, l'eau du lavoir, plein de personnes qui seraient passées par là.
Vous avez toutes les fausses pistes que vous pouvez trouver, parce qu'il est plus évident de travailler dans un endroit comme un champ où personne n'a traversé ce champ que de travailler par exemple sur les Champs-Élysées, où vous avez énormément de passages. Vous avez les animaux qui peuvent perturber. Vous avez des bruits, par exemple, le bruit d'un chien derrière un grillage qui se met à aboyer. Ben, ça peut perturber à un moment donné le travail du chien, même si on va passer tout ça.
Ça veut dire quand même qu'on a là un point d'interrogation, un premier point d'interrogation extrêmement fort, parce que les chiens ne sont pas infaillibles. Il ne peut pas avoir été enlevé. On ne sait pas s'il a pris sentier. Et là, on commence à avoir... un premier mystère sur lequel on n'a pas de réponse.
C'est pour ça que la thèse du transport du corps après un éventuel homicide revient en force, puisque le petit n'aurait pas été enlevé. Il y a d'autres thèses qui viennent en appoint, du coup. Donc,
exemple,
ce qui est fait. Peut-être que l'enfant aurait pu être, qu'on appelle ça, donc il y aurait eu une collision avec l'enfant donc sur le sentier un peu plus loin, aurait été renversé sur ce sentier. La personne en question aurait paniqué, l'aurait peut-être déposé dans la zone de recherche actuelle. C'est une hypothèse qui est aussi à prendre en compte.
On revient à l'agriculteur avec son tracteur, on revient à quelqu'un qui roulait vite.
Un agriculteur ou un autre, ça peut être un automobiliste. Enfin, c'est un sentier qui peut être emprunté par des 4x4 en l'occurrence.
Et on n'a aucune certitude même qu'Émile ait pris ce sentier. C'est-à-dire que... Oui. Il y a les hypothèses qui puissent s'être passées un drame familial.
Donc, on n'a pas la trace exacte. Donc,
il n'y a pas de trace exacte. Ça ouvre toutes les hypothèses du huis clos dans ce village. Quand on prend un dossier comme ça, on est obligé d'envisager toutes ces hypothèses. Et là, on a quand même beaucoup de mystères, un sentier qui n'est pas pris par les chiens. Alors, il peut y avoir des raisons techniques, vous nous les avez bien expliquées. Mais si ça se trouve, Émile n'a jamais été sur ce sentier. Et ça s'est passé ailleurs.
On a des précédents dans des affaires criminelles. On sait très bien qu'il faut prendre tous ces éléments-là, y compris les déclarations des témoins, avec beaucoup de prudence entre ce que les témoins pensent avoir vu, ce qu'ils ont vu en réalité. Parfois, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Donc, il faut tout remettre en cause. En fait, le travail des enquêteurs, mais y compris après des avocats, quand on travaille sur ce type de dossier, c'est de ne rien prendre pour acquis. C'est de ne rien prendre pour certain. Et dans ce dossier-là, en l'état, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs possibilités qui restent ouvertes. une possibilité accidentelle, des possibilités accidentelles, c'est bien la difficulté, et des possibilités criminelles. Et puis, il y a d'autres choses qui interpellent. Hein. Il y a le moment de la découverte de ce crâne, les conditions de la découverte de ce crâne.
Pour rappeler la temporalité, il y a une mise en situation. C'est-à-dire qu'on fait revenir les gens qui étaient au Auvernais le jeudi. Le crâne
est découvert.
On ne trouve rien. On fait cette mise en situation. Oui. Le crâne est découvert le samedi.
Et les
deux jours après. Et il est retrouvé le week-end de Pâques.
Et les vêtements. Et le week-end de Pâques.
Non, les vêtements seront retrouvés le mardi. Enfin, le lundi. Enfin,
peut-être dans la veille. Une proximité de temps qui permet de penser que tout ça a été là au même moment, si vous voulez. Retrouvé au même moment.
C'est vrai que la coïncidence des événements.
Ça ne tombe pas non plus un jour anodin. Je ne veux pas faire de la voyance, mais bien sûr que ça interpelle. Hein. C'est une famille très croyante, catholique. C'est Pâques. Je ne sais pas. Il y a quand même des choses très très étranges qui entourent ce dossier-là. Une atmosphère très étrange. Je pense que voilà, on va avoir des résultats bientôt et je reste ouvert à toutes les possibilités me concernant, même si j'ai une prédilection pour l'accident. Il y a quand même plein de choses qui me perturbent profondément, qui m'interpellent, y compris certaines choses dont je ne parlerai pas en plateau, que je ne livrerai pas, parce que c'est pas forcément toujours très rationnel, mais en tout cas, on se pose énormément de questions. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a découvert, en principe, avec ce qu'on a découvert, on devrait avoir des réponses. On a autant de réponses qu'on en avait quand on n'avait pas découvert le crâne. C'est très singulier dans une affaire criminelle. Ça, c'est très étonnant.
Cette coïncidence de calendrier, effectivement, en famille très religieuse, la première réaction d'ailleurs des parents d'Émile, c'est de dire que ça intervient le jour de Pâques et que pour eux, c'est un signe pour leur enfant, en tout cas, c'est un léger réconfort dans l'horreur qu'ils vivent.
Certes, mais ça intervient surtout donc, deux jours après la mise en situation. C'est ça qui m'interpelle en premier lieu. Donc, il y a eu cette mise en situation. Il faut se rappeler du contexte. C'est un contexte très lourd, très pesant. On en revient donc à l'hypothèse d'une personne qui serait impliquée dans cet accident ou homicide volontaire, qui paniquerait parce que l'enquête avance, il y a des éléments qui se mettent en place. Donc, en paniquant, donc elle veut se débarrasser du corps, le dépose de manière tout à fait ostentatoire, comme vous disiez, maître.
Ostentatoire.
Voilà, donc c'est le week-end de Pâques. Donc, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de coïncidences qui interpellent beaucoup dans ce dossier.
Moi, quand on a avec Dominique tous les dimanches des grands flics, j'allais dire, des grands gendarmes comme vous, généralement, ils nous disent il n'y a pas de coïncidence dans les affaires. Il y a toujours une explication, il y a toujours... Quand il y a des choses qui semblent curieuses, c'est qu'il y a quelque chose. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui semblent curieuses.
Alors, ce sont des petites choses qui s'accumulent les unes à côté des autres. Est-ce qu'elles sont corrélées? C'est ce que les enquêteurs vont devoir trouver. L'enquête, finalement, elle prend un nouveau jour, mais... Tout ce qui a été fait en amont va être vu au prisme de tout ce qui est arrivé depuis ce week-end-là. Donc la mise en situation, qui a été le transport sur les lieux, quelle en était la finalité? Si un des protagonistes était impliqué, quand, à la fin de la journée, il savait pertinemment où il en était et ce qui pouvait ressortir un petit peu cette mise en situation. Donc ça a été un déclencheur, pas un déclencheur. Mais ce qui est étonnant, c'est finalement, si on va déposer le corps, c'est-à-dire qu'on a le corps en entier. On ne va pas déposer, on ne va pas jouer. Ça va être très difficile ce que je vais dire là. On ne va pas jouer au petit poussé. Laisser un petit peu, rien que le crâne, quelques habits, et puis rien du tout. C'est-à-dire qu'on dépose tout. Et puis, voilà. Ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on trouve, comment on le trouve, les circonstances.
Et c'est figuré qu'on ait camouflé aussi le corps au préalable.
Exactement.
Aussi, donc, dans un village exactement. Qui a été surfouillé.
Fouillé, visité.
Donc c'est prendre un risque de déplacer le corps, à se faire surprendre, etc. Mm. Alors que il était peut-être là depuis le début.
C'est pour ça qu'on penche plus pour l'accident. Mais...
Question aux spécialistes des chiens. Si on considère que le corps, que quelqu'un a fait du mal à Émile, volontairement ou involontairement, hein, on va dire involontairement, quelqu'un qui passe vite, avec son tracteur, son 4x4, son pick-up, enfin, voilà, qui renverse Émile, il a le corps d'Émile, il va le déposer assez rapidement à l'endroit où on le retrouve, même s'il le garde une semaine, bon, il va le déposer. Ensuite, on est le 8 juillet, donc l'été va faire son œuvre, la chaleur, et puis le 15 septembre arrivent les chasseurs. Donc, ce corps, est-ce qu'on peut... Il est à 50 mètres du sentier, à peu près.
À peu près, enfin, oui.
On retrouve
oui,
les ossements fait, ici. Ça veut dire que le corps, il était... Est-ce qu'on peut imaginer que depuis, personne ne se soit aperçu, depuis le... Allez, fin juillet, personne ne se soit aperçu qu'il y avait ici un corps. Des promeneurs avec leurs chiens, des gens qui ramassent des champignons, des randonneurs, oui, des chasseurs.
Dominique, à moins que les
d'autres
animaux...
D'autres recherches encore.
Non, Dominique, à moins que les animaux aient fait leur œuvre aussi, donc on en revient donc à la thèse de l'animal.
Climatique. Et tous ceux qui sont venus à la mise, au déplacement sur les lieux. Je ne sais pas combien il y avait de dizaines et de dizaines de gendarmes présents, et je pense qu'ils savent mieux que nous s'ils ont été à proximité immédiate de cette petite zone, voire même sur cette zone. Et là, effectivement, les interprétations...
Oui. Et là, les chiens...
On a parlé des chiens de cadavres. Ils auraient pu retrouver ce corps s'il avait été là ?
Ah ben les chiens de cadavres... De recherche de restes humains ne travaillent pas de la même façon que les chiens pistes traditionnels, qui soient type malinois ou type Saint-Hubert. Là, on ne travaille pas sur une odeur de vivant, donc il faut quand même un certain délai. Alors, je ne sais pas dans cette affaire s'ils sont intervenus.
Ils ont été utilisés.
Dans cette zone, et selon sur quel délai. Mais s'ils étaient sur cette zone avec. Un corps, est-ce qu'il était enterré ? Est-ce qu'il était en surface ?
A priori en surface,
on sait à quel moment. On sait à quel moment. Le procureur dit entre le 23 et le 25, donc disparition le 8 juillet. Et le procureur nous dit entre le 23 et le 25 juillet, des drones, des chiens de cadavres qui n'ont pas couvert la zone. Curieusement, la première zone de 2 km², elle est couverte par les premiers chiens, les chiens pisteurs. Mais la zone où est découvert. Dans cette zone, il y a le crâne d'Émile. Et dans la zone où vont chercher les chiens de cadavres, c'est pas la même zone. C'est normal, ça ?
Ça, c'est au niveau de l'enquête, et je pourrais pas me prononcer sur ce sujet-là, mais quand on regarde, surtout sur les pistes qui sont au départ, vous avez normalement un dispositif qui se met en place avec les chiens de piste traditionnels, les doubles technicités, piste défense qui interviennent tout de suite. Le lendemain, généralement, surtout quand on considère la singularité de cette affaire avec quand même un enfant ou une vulnérabilité assez prononcé, on engage rapidement un chien dit de Saint-Hubert, qui lui a un pouvoir d'olfaction qui est supérieur. Vous avez déjà un deuxième chien. Et après, vous pouvez aussi demander, alors je ne sais pas si ça a été le cas dans cette affaire, mais vous pouvez demander également le renfort des chiens de questage, type sapeurs-pompiers ou sécurité civile, qui eux vont faire des recherches dites en surface, sur une grande superficie. Alors effectivement, ces chiens de questage n'ont peut-être pas un pouvoir de discrimination, mais ils sont capables de pouvoir déceler la présence d'un être humain dans une zone donnée.
Et c'est qui le patron ? Je veux dire, en l'occurrence, lorsque vous arrivez avec votre chien, est-ce qu'on vous dit, voilà, c'est ici qu'il faut fouiller, ou est-ce que vous dites, c'est mon chien, je connais mon job ? Laissez-moi faire, je vais où je veux.
Le moyen cynophile, c'est
un... Est-ce que vous avez un officier sur le dos ou un magistrat qui vous dit non, pas ici ?
On est relativement indépendant, et le moyen cynophile en gendarmerie, c'est un maillon d'une chaîne. Ce n'est pas toute la chaîne. Chaque technicité a ses protocoles d'emploi, c'est-à-dire lorsque vous arrivez sur une disparition, vous avez grosso modo l'étendue de l'affaire. Est-ce qu'on vous demande ? On vous dit, vous avez tel fait... telle disparition à partir de tel moment, vous prenez vos renseignements et toute la partie technique incombe au maître de chien. C'est à lui de prendre son odeur de référence, mais il se peut aussi très bien qu'il n'a pas accès à cette odeur de référence, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui opère au prélèvement. Et dans ces cas-là, on peut douter aussi de l'odeur de référence. Si vous n'avez pas une bonne odeur de référence et que ce ne soit pas le maître chien qui les saisit, on peut être embêté.
C'est intéressant parce qu'on voit à quel point malgré la rigueur de l'enquête, malgré la technicité des enquêteurs, tout reste fragile et rien n'est infaillible. Vous disiez tout à l'heure, Randall Schwerdorfer, dans cette affaire, la découverte du corps, elle ne nous a pas apporté des réponses. On a plus de questions une semaine après qu'avant.
D'habitude, quand on découvre le corps, en tout cas, ce qui reste du corps, on a des affaires. En exemple, on arrive à savoir la cause de la mort. C'est ça l'intérêt d'ailleurs de la découverte du corps, c'est de pouvoir tracer les causes immédiates du décès. Et ça permet, par exemple, si on découvre l'osioïde fracturé, de conclure, par exemple, à un étranglement. Si on retrouve des impacts sur une côte faite par un objet tranchant et contondant, on peut imaginer très facilement, pas imaginer, scientifiquement démontrer qu'il s'agit, médico-légalement parlant, d'un coup de couteau, par exemple, qui a pu occasionner le décès. Là, on n'a rien. On a une boîte crânienne, une partie de boîte crânienne qui n'a rien, qui a des stigmates, mais qui sont des morsures d'animaux post-mortem, donc ils n'interviennent pas dans le processus mortifère. Et à partir donc de ce moment-là, on n'a aucun élément, ni sur le point zéro, pour reprendre le général Daoust, ni sur la cause du décès. C'est vous dire si en l'état, on ne sait qu'une seule chose, c'est que Émile est décédé.
Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant parce que vous l'avez bien compris, dans cette affaire, on a plus de questions que de réponses. Comme souvent dans la disparition ou la mort de jeunes enfants, la pression elle est maximale sur les experts puisque c'est à eux qu'on demande beaucoup, c'est à eux, on l'espère, de trouver la vérité. Mais est-ce que la science va véritablement permettre d'élucider cette affaire? On se retrouve dans un instant, à tout de suite. À la suite d'affaires suivantes, et on le disait pour répondre aux très nombreuses questions qui se posent sur la mort d'Émile, les enquêteurs se tournent aujourd'hui vers la science. Les experts savent faire parler les os, les vêtements et même la terre où ce crâne a été retrouvé. Mais la science a-t-elle réponse à tout? Saura-t-elle apporter des réponses sur la mort du petit Émile dans bien d'autres affaires? Elle n'a pas suffi, notamment dans bon nombre de disparitions ou de morts d'enfants, ces fameux cold case, ces fantômes de l'enfance. Elisa Trane.
Grégory, Marion, Estelle, Ludovic, leurs prénoms ont marqué des générations de Français. Nous avons grandi, vieilli, avec les visages de ces enfants disparus. Pour certains, leurs dépouilles ont été retrouvées. C'est le cas du petit Grégory Villemain, repêché dans les eaux de la Vologne. Pourtant, 40 ans plus tard et la présence de scellés, son meurtrier n'a jamais été identifié. Les parents d'Estelle Mouzin, eux, ont pu voir condamner en décembre dernier Monique Olivier, complice de Michel Fourniret dans la séquestration de la petite fille. Mais le corps de l'écolière n'a jamais été retrouvé malgré les nombreuses campagnes de fouilles. La piste de l'ogre des Ardennes a été un temps envisagée pour expliquer la disparition de Marion Wagon. La fillette s'est volatilisée en 1996 sur les quelques centaines de mètres qui séparaient son école du domicile familial. Ses parents attendent toujours des réponses. Comme ceux de Ludovic Janvier, enlevé en pleine rue sous les yeux de ses frères, en 1983, en Isère. Un squelette a bien été retrouvé 2 ans plus tard, mais il a depuis disparu. Impossible de faire les analyses ADN. Il s'appelle Fabrice Ladoux, Charazet Bendouillou, Yanis Moret ou Émile Soleil. Leurs prénoms, leurs visages, resteront à jamais dans la mémoire des Français.
À l'émotion et l'espoir que la science apporte des réponses. Marilyn Baranès, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie clinique, en psychopathologie, experte judiciaire, spécialiste des questions de traumatisme. Gilles Rex, bonjour, merci de nous avoir rejoints également. Vous êtes ancien major à la police technique et scientifique de la police judiciaire de Paris. D'abord, Marilyn Baranès, quand on revoit tous ces portraits d'enfants avec lesquels on a grandi, ça nous rappelle à quel point l'affaire d'Émile nous a tous touchés. C'est parce que c'est des enfants. C'est une douleur particulière pour toutes les familles françaises.
Oui, effectivement, on se rappelle tout à fait des premières questions, notamment sur l'affaire du petit Émile, comme on l'appelle maintenant. Hein. On ne dit plus, on ne dit pas Émile, on dit le petit Émile. Et c'est dire à quel point ça nous a touchés et bouleversés. Et je me rappelle de toutes ces premières questions au niveau quasi national. Mais pourquoi n'a-t-on pas, quand on l'a vu marcher, comment on laisse un petit garçon de 2 ans et demi marcher tout seul? Donc bon, on évolue un petit peu avec cette pensée de se dire que bon, bah dans ce village tout petit, les gens ont l'habitude de se promener. Tout le monde, on est en confiance. Et effectivement, c'est un deuil national parce que ce petit Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, il y a de l'identification aux parents. Et puis de la projection en tant que parent et de se dire mais comment ce petit garçon tout seul 2 ans et demi s'est promené et personne, on l'a laissé faire et puis que s'est-il passé? Nous sommes dans ce vide, nous sommes dans cette grande angoisse, dans cette anxiété qui ne nous quitte pas, sachant que aujourd'hui on a une réponse qui est que nous sommes sûrs qu'il est décédé.
Et il y a énormément d'inconnus. Ça doit réveiller la souffrance de tous les parents qui ont connu des disparitions d'enfants ou la mort de leur enfant sans réponse, ces fameux cold cases. La question, elle est simple et tellement compliquée, mais est-ce que la science apportera la vérité dans l'affaire des mille? Est-ce que la science peut toujours dire la vérité ou est-ce qu'il faut se résigner au fait que par moment, la science a ses limites?
Écoutez, espérons-le. Par exemple, pour cette affaire-là, j'entendais vos précédents intervenants et puis le reportage qui avait été fait tout à l'heure concernant, par exemple, les habits. Les habits qu'on a trouvés à 150 mètres. Alors, est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'ils étaient intacts ou pas intacts? Déjà, le fait de savoir s'ils étaient souillés, s'ils ont passé de très très longs moments, plusieurs semaines, plusieurs mois à l'endroit où on les découvre, peut apporter un élément de réponse déjà. Et le point zéro, ce point que recherchent les techniciens de police technique
et scientifique. Là où s'est passée la mort.
Là où s'est passée la mort, là où le corps était dans son entièreté, avant sa décomposition, certes, comme disait le général Daoust, qui est compliqué de parler de ça, mais en fait, il faut bien appeler les choses par leur nom. Eh bien, à cet endroit-là, où on trouve les habits, si c'est le point zéro, on peut peut-être être sûr que c'est bien ici, grâce aux fouilles qui vont être faites dans la terre, en tenant compte de la recherche, de l'entomologie médico-légale qui va avoir lieu, des pupes qui ont participé à la décomposition du corps et qui sont enterrées quelque part dans la terre. Donc il va y avoir des prélèvements, des échantillons qui vont être analysés et l'IRCGN, qui a ce fameux département d'entomologie, sera apte à déterminer si, oui ou non, c'est bien le point zéro et peut-être de dater la période de la mort.
Vous êtes l'un de ces grands experts. Est-ce que vous travaillez aussi avec le poids de ne pas trouver? Parce qu'il y en a plein des animaux. On parlait du petit Grégory, il y a encore peu de temps, on a relancé l'ADN.
Le petit Yanis aussi à Ghana Gobi, dans la même zone, on est à 60 km à peu près du Haut-Vernay. On avait retrouvé chemin des habits un an plus tard.
Plié
soigneusement, au même endroit à côté de la fameuse cabane, et le petit Yannick n'a jamais été retrouvé non plus.
Vous avez cette pression d'expert de vous dire, en fait, peut-être que la science, malgré le travail remarquable qui peut être fait, bah, des fois, elle ne peut pas apporter la réponse.
Alors, la pression, oui, on a tous la pression. Dans ce genre d'affaires, c'est quand même un drame national, on peut dire, hein, maintenant, pour tout le monde. Hein, tout le monde s'associe au malheur de cette famille. Nous, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a deux groupes qui travaillent en parallèle. Ce groupe de police technique et scientifique, les gens de l'IRCGN que je connais bien pour avoir fait plusieurs missions avec eux, et le groupe des enquêteurs. Chacun a sa tâche, évidemment, tous les éléments retrouvés d'un côté et de l'autre seront mis au final et portés à la connaissance de la justice, hein, bien sûr, mais chacun travaille séparément. Les gens de la police technique et scientifique n'ont pas de boule de cristal. Ils ne font que rechercher, prélever, analyser les traces ou des indices qu'ils trouvent sur les lieux et les comparent avec des collections de références dans leurs fichiers ou des choses qu'ils connaissent, des peintures, des verres, des fibres, de l'entomologie, des pollens. En fait, voilà, hein, c'est ça. Quant aux enquêteurs à côté, ce groupe d'enquête va être chargé, lui, de mettre en forme cette procédure judiciaire avec des auditions, des filatures, des écoutes, tout un tas d'autres choses qui les concernent.
Travailler sur les scénarios possibles. C'est dur de se dire, c'est tout ce qu'on fait avec Dominique le dimanche, ces cold cases, toutes ces familles qu'on reçoit, de vivre avec une non-réponse. C'est quasi inacceptable, en fait.
Alors, c'est très important ce que vous dites, Philippe. Je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est qu'en mathématiques, il y a une réponse qu'on appelle l'ensemble vide. C'est une réponse mathématique. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre, ce n'est même pas zéro. C'est-à-dire que zéro suppose qu'on pourrait avoir un et deux. Mais l'ensemble vide est une réponse mathématique. Donc c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile notamment, enfin psychologiquement parlant, difficile notamment dans les cas de traumatisme. Parce que le traumatisé, c'est-à-dire là, la France entière quand même, se dit, mais c'est-à-dire, on n'accepte pas l'ensemble vide. C'est très compliqué, vous avez raison de le souligner. Mais c'est une réponse qui existe. Et donc, ce qui m'amène à penser à la notion et à la définition de l'accident. L'accident, finalement, quand on développe quelque chose on a une définition négative, il faut qu'on puisse l'opposer à une définition positive de façon à comprendre. Eh bien, nous vivons en permanence dans un accident positif. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous vivons et tout se passe bien parce que des tas d'éléments, parce que finalement, nous maîtrisons quoi ? 10, 20, 30% des choses, le reste, nous ne le maîtrisons pas. La vitesse du vent, la pluie, la luminosité, le moment...
On s'habitue à vivre avec des inconnus.
Donc, on s'habitue, mais on n'en a pas conscience. Donc, nous sommes en permanence dans des accidents positifs, c'est-à-dire tout se frôle, mais ne se percute jamais. L'accident, et c'est peut-être là où nous en sommes aujourd'hui avec l'affaire du petit Émile ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est criminel ou est-ce que c'est un accident, mais ça existe de dire que là où normalement les chiens auraient dû sentir, le chien a été piqué par un tic, il a été perturbé psychiquement à la seconde même, à la demi-seconde même où il devait sentir quelque chose, il ne l'a pas senti. Là où au moment le drone aurait dû voir quelque chose, il y a eu une éclaircie qui a fait que, etc. Et donc c'est un enchaînement de choses qui provoque toujours un accident et qui est en réalité, nous ne pouvons pas l'éviter. Donc, est-ce que c'est un accident avec cet enchaînement qui fait que ce serait incroyable ? Et en tout cas, effectivement, ce qui est très difficile, c'est que l'ensemble vide dans la vie, cette réponse mathématique existe.
C'est passionnant. Laurent, pour conclure, et merci de nous avoir accompagnés tout du long.
C'est bon.
Au café du Haut-Vernay, il y a encore des gens qui viennent, qui parlent, qui se confrontent à ces accidents, qui se disent « la science va nous apporter une réponse ». Comment ça se passe ?
Je vous disais tout à l'heure, tout le monde se pose des questions et des questions de sa réponse. Comme disait le maître, c'est une affaire. On a découvert un élément et il est rare qu'une affaire, quand on découvre un élément, n'apporte pas de réponse. Là, on revient quasiment au point
c'est
zéro.
C'est encore plus compliqué qu'avant.
C'est rare, c'est le mystère, s'épaissit même, je dirais. Donc, et c'est assez curieux. Donc, dans le village, dans le hameau, tout le monde part de ses hypothèses, de ses thèses. On tourne en rond, en fin de compte. Et c'est un huis clos qui devient pesant.
Et pour montrer que le boulot a été fait, quand Marlène vous parlait de l'ensemble vide, on va quand même dire que dans cet ensemble vide, il y a des recherches, des hommes, des moyens, des hélicos, des drones, des caméras thermiques, des chiens pisteurs, des chiens de recherche de corps, une enquête, 1696 signalements, oraux, des lettres, des mails, des 157 auditions, 1000 téléphoniques vérifiées, 1000 téléphones qui ont été vérifiés, qui bornaient dans le coin, 18 véhicules, 500 personnes.
Et 100 gendarmes qui restent mobilisés et qui continuent à fouiller cette zone. Merci beaucoup. Merci Laurent Blanchard d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 13h pour Affaires Suivantes avec Dominique.